Je m'appelle Carole Chaptal-Hernandez. Je suis la représentante de l'association Justice pour Robin Cotta, créée après son décès tragique et insoutenable à la prison des Baumettes. Aujourd'hui, je prends la parole pour présenter notre association, pour rappeler pourquoi elle existe. Parce que l'assassinat de Robin n'est pas un fait divers. C'est un scandale d'État. Un scandale d'État qui nous oblige à nous lever et à dénoncer l'injustice. Un scandale d'État qui engage la responsabilité du centre pénitentiaire, du gouvernement, et qui appelle une réponse immédiate. Robin avait 22 ans. Il n'aura passé que 17 jours en prison pour un délit mineur et non violent. Il n'en est jamais ressorti. Il est décédé au quartier des Arrivants, présenté comme un quartier d'observation, d'évaluation et d'orientation en théorie. Mais qu'observe-t-on vraiment dans cette unité ? On y entasse les détenus sans distinguer les profils dangereux, sans réelle évaluation psychiatrique et sans prendre le temps d'écouter leur alerte. C'est ainsi que Robin a été placé 5 jours avec son futur assassin, connu par tous pour sa dangerosité. Les 5 derniers jours de sa vie, 5 jours d'alerte incessante, ignorée par l'institution, alerte étouffée, ignorée, balayée, parce que l'administration pénitentiaire a préféré fermer les yeux et les oreilles.
Alors, à savoir que quand le pénitentiaire dit « on a réagi de suite », ce n'est pas vrai. À partir de 18h, il n'y a plus les clés. Les matons n'ont plus le droit d'ouvrir et intervenir dans les cellules à partir de 18h, après la gamelle, comme on l'appelle, parce qu'on est considéré comme des chiens avec la pénitentiaire. La pénitentiaire, à savoir qu'elle tue, elle tue au cuit, elle tue au QD, elle fait la violence, elle provoque les violences entre détenus. C'est ce qui s'est passé avec Romain et son co-détenu. Si nous, côté femmes, on a entendu des cris, des hurlements, de dire « sortez-moi d'ici, aidez-moi ». Et c'était Romain qui parlait. Pendant 5 jours, il a crié « sortez-moi de lui, j'ai peur ». Ils l'ont laissé sortir, ils l'ont emmené à la promenade, il s'est fait mettre à tabac parce qu'il se plaignait des conditions pénitentiaires, qui ne réagissaient pas. Les fautifs, pour moi, c'est les pénitentiaires qui étaient de garde pendant 5 jours consécutifs, 5 jours H24, 5 jours en train de pleurer, crier, supplier ses parents, supplier sa famille, supplier de faire quelque chose. Madame la directrice des Baumettes a fait la sourde oreille. Chef de pénitentiaire a fait la sourde oreille. Pénitentiaire, surveillant, pénitentiaire, on fait la sourde oreille.
Robin n'est pas mort à cause de la surpopulation carcérale, comme on nous l'explique à longueur de journée. Il est mort parce que l'État a failli à son devoir de protéger une personne détenue provisoirement, demeurant un citoyen présumé innocent tant que la justice ne s'est pas prononcée. C'est pour dénoncer cela que nous avons fondé l'association Justice pour Robin. Nos objectifs sont la mémoire et la justice pour Robin et pour toutes les victimes décédées en prison, une justice équitable et une prévention de la délinquance pour œuvrer en amont, toute la vérité sur les conditions carcérales contre l'opacité et le silence d'État, une réforme globale pour une prison digne, qui protège pour la santé, les droits humains et ensuite, bien sûr, la réinsertion, la deuxième chance avec libération conditionnelle, alternative à la prison, accompagnement concret, ce qui n'existe pas en France aujourd'hui. Les prisons doivent rester ce qu'elles prétendent être, un lieu de privation de liberté. En aucun cas, un lieu où on trouve la mort. Et pourtant, aujourd'hui, en France, il y a un mort tous les 2 à 3 jours dans nos prisons françaises, dans d'autres pays européens, la récidive par exemple, est de 20 à 35% parce que leur prison protège et réinsère. En France, la récidive explose à 60% car la France préfère payer des amendes sous les condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme plutôt que d'améliorer ses prisons et de prendre exemple sur les pays voisins européens. Construire plus de murs n'a jamais protégé personne. Ce qu'il faut, c'est plus d'écoute, plus de discernement et un peu de courage politique. Parce qu'on juge du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses prisonniers.
Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, passe, ton nom est sur le tas. J'ai fait 6 pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Les flics éclatent, roulent à fond, bon mon avocat éclaire. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49-203, j'entre en cellule, des 128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin, 49-204, me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête, et le maton te guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent, et le maton te guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader, le trouble est dans ma tête et le maton.
Première nuit, matelas pourri, lit superposé, carreaux cassés, les rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale. Goal, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, 2 de grillage et un de barbelé. 8 douches dans le bois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans ce goulag, la cellule, le stalag. Les jours se répètent
et le maton
mon
te guette.
Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent
et le maton
mon
te
guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton
il
te guette.
Il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de poker contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle nouvelle. Un suicidé évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libéra pour 49-203.
Ah, pas si t'es sorti.
Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeu et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine, que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas, pas à moi, moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire, bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent
et le maton te
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton te
guette. J'ai pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion.
Et le maton te
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison,
à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de harnes, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Oni, Fresnes, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zones. Parloir, courrier, tournée, c'est la merde, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette.
Oui. Quand le maton te guette.
Pour Carole, cette idée de marche blanche est venue parce qu'elle avait envie de passer à une action politique, une action de vie de cité, de groupe et pas seulement de tristesse individuelle. Et donc elle a tout découvert, elle a monté son association et puis elle a tout essayé de faire comme une grande toute seule, enfin pas toute seule, heureusement il y avait des copains, mais elle a déclaré la manifestation en préfecture. Au début, le maire de Sisteron, Daniel Spagnou, il s'appelle, il a voulu refuser parce qu'il n'avait pas envie qu'il y ait un hommage à un toxico ou à un tolard dans sa ville. Donc la mairie a été obligée par la préfecture de libérer une place devant la mairie, justement, pour faire ce rassemblement. C'est Carole qui a invité les intervenants. Et puis, voilà, elle a organisé tout ça avec la découverte de ce que ça peut être une organisation quand on fait ça dans les règles. C'est-à-dire qu'elle a eu le petit coup de fil de la DGSI qui dit « Bonjour, je suis major de police, je viens me renseigner, est-ce que je comprends très bien votre combat, madame ?» Vous avez tout à fait raison, mais je compte sur vous pour que ça se passe dans le calme et qu'il n'y ait pas de débordement. Est-ce que vous avez une idée de combien de personnes vont venir? Mais de toute façon, vous inquiétez pas, nous serons présents. Enfin voilà, tout ce petit type de pression avec le maire qui édite un arrêté municipal pour rappeler que le cimetière est un lieu de recueillement et que toute personne en état d'ébriété ou ayant un comportement indécent n'y aura pas accès, et que la police municipale veillera. Donc une belle façon de stigmatiser les proches et les amis de Robin et de mettre la pression à Carole. Bon, ceci dit, la manifestation s'est très bien passée. Et la pression a été dure pour Carole, mais voilà, ça lui a permis aussi de trouver des alliés qui lui ont fourni une sono, des choses comme ça.
Non mais t'inquiète, je surveille avec vous, mais au moins si je suis pas bien, je peux me reculer sans.
Donc le bilan sur cette marche blanche, c'est une journée qui a été douloureuse mais positive parce que. Nous avons pu, les proches surtout, les très proches, les jeunes amis de Robin du même âge, qui avaient du mal à, même entre eux, à parler de Robin au bout d'un an encore, ça ravivait trop la douleur de cette perte. Une perte, c'est déjà compliqué quand il s'agit d'un accident de voiture ou d'une mort violente, mais dans des conditions injustes, comme ce qui s'est passé pour Robin, donc des alertes répétées et voilà, une non-assistance à personne en danger, c'est une douleur qui est encore très très vive pour les proches de Robin. Notamment la maman qui n'a pas pu assister à la marche et qui a écrit une lettre très émouvante que Noël de Radio Zinzine a pu lire durant les prises de parole. C'était un moment très très émouvant.
Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas la force d'être présente parmi vous aujourd'hui et j'en suis désolée. Depuis plus d'un an, nous vivons un véritable enfer. Cette marche blanche, aussi nécessaire soit-elle, m'est insupportable, car elle ravive trop cruellement la blessure du décès abject de mon fils. J'espère et je pense que vous le comprendrez. Mais je suis avec vous autrement, par le cœur et par la pensée. Robin était notre être, notre petit être de lumière, ma joie de vivre, mon futur lumineux, ma force, ma vie. Nous avons perdu tout cela. Et ce n'est pas le hasard qui nous l'a arraché, mais une institution aveugle et sourde qui a laissé mourir mon enfant. Il avait toute la vie devant lui. Il était sensible, profondément humain, attentif aux autres, toujours prêt à rendre service. Il avait une immense tendresse pour les animaux et il s'entourait d'amis nombreux qu'il appréciait profondément. Il venait d'avoir son permis et comme une maman fière à son enfant, je lui avais offert une petite voiture, symbole de liberté et d'avenir. Mais la toute première fois qu'il l'a conduite, au lieu de goûter à cette liberté, il a été arrêté et emmené en prison. Incarcéré pour un délit mineur et non violent, il n'y est resté que 17 jours. Et sur ces 17 jours, il a passé seulement 5 jours avec celui qui allait devenir son meurtrier. Et malgré ses alertes, rien n'a été fait. C'est ainsi que notre Robin a trouvé la mort. La prison, qui aurait dû encadrer et protéger mon fils, notre fils, l'a en réalité livré en pâture à un détenu connu pour sa dangerosité. Notre Robin a fini le corps brisé, les organes éclatés, pratiquement décapité, malgré ses plaintes écrites et verbales, malgré ses hurlements à la mort. Il a vu sa vie s'éteindre dans une barbarie à vomir et personne n'est venu à son secours. L'horreur, l'indicible horreur d'une maman qui sait que son fils a crié jusqu'au bout, dans le vide. À ce jour encore, nous n'avons pas accès aux lettres de notre fils, ni aux vidéos qui pourraient montrer la vérité et défendre sa mémoire. On nous refuse ces preuves, et moi et nous restons dans le noir le plus total. Les témoignages des gardiens et de certains responsables se contredisent. Tout cela déchire encore davantage notre cœur de mère et de père et nous enferme dans un silence qui nous tue à petit feu.
La marche s'est passée plutôt positivement puisqu'elle a permis de cheminer, de créer un chemin dans le deuil des proches. Le fait d'en parler, le fait de faire vivre son nom, d'avoir des images de lui, de marcher pour lui, permet de ne pas tomber dans l'oubli et de faire un pas dans le processus de deuil. Pour ne pas rester complètement traumatisé par son absence. Le bilan aussi, les personnes qui ne connaissaient pas Robin, nous avons eu quand même pas mal de personnes, de citoyens qui se sont mobilisés pour venir participer à cette marche. Nous nous sommes rendus compte que les citoyens sont fort étonnés des conditions de détention, n'en reviennent pas quand on leur en parle. Ils sont souvent plus qu'émus, pratiquement traumatisés par ce qu'il peut se passer dans nos prisons françaises. C'est des choses que lorsqu'on n'est pas confronté à un proche en prison, des choses qu'on ne sait pas. Donc ça a été aussi pour nous un moment politique, surtout au départ de la marche, avant la marche, où il y a eu donc les prises de parole le directeur régional de la Ligue des droits de l'homme, Léo Walter, qui est un ancien député du 04 et qui venait représenter la députée André Tourignat qui nous suit et qui nous soutient, l'association.
Bonjour à toutes et à tous. Merci, Carole, pour cette prise de parole puissante. Un journaliste de la Provence me demandait tout à l'heure pourquoi j'étais là aujourd'hui. Alors, je suis là tout d'abord parce que j'ai été invité par l'association Justice pour Robin Cotta et j'étais invité en tant qu'ancien député de la circonscription et parce que je fais partie d'un mouvement politique et d'un groupe parlementaire qui lutte depuis des années pour ces questions de justice, pour ces questions de politique pénale, de politique carcérale. Et en particulier, je voudrais avoir un mot pour André Torignat, qui est député de la Loire et qui est aux côtés de l'association parce qu'elle a accompagné des familles dont les enfants ont également été assassinés en prison à la Talaudière à Saint-Étienne et qu'elle a fait un certain nombre de propositions, de questions au gouvernement sur cette question-là. Je suis là également parce que, par simple humanité, parce que je suis un papa qui a 3 enfants qui ont l'âge de Robin, enfin l'âge qu'avait Robin, et que je suis capable d'imaginer la souffrance immense de ses parents, de ses proches, de ses amis, parce que je suis aussi instituteur et que dans la foule qui est réunie aujourd'hui, il y a les anciennes institutrices de Robin qui sont là parce qu'elles ont perdu un élève et dont elles se souviennent aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis là. Mais je suis surtout là parce que la question de la mort de Robin est une question politique. Carole l'a très bien dit, ce n'est pas un fait divers, c'est une question profondément politique et qui pose des questions politiques. La première de ces questions, c'est la question du traitement de la drogue et des toxicomanies dans notre pays. Nous sommes le pays le plus réactionnaire, le plus autoritaire, qui punit le plus de l'ensemble de l'Europe sur la question des drogues. Et on n'est jamais sorti de cette politique de la criminalisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles Robin s'est retrouvé en prison, puisque je rappelle qu'il s'est retrouvé en prison pour avoir fait une fausse ordonnance. Et c'est une vraie question que l'on doit poser. Doit-on envoyer en prison des gens qui doivent être, au contraire, accompagnés parce qu'ils ont un souci d'addiction? Doit-on criminaliser la question des drogues? La réponse, de mon point de vue, est clairement non. Et le cas de Robin Cotta est absolument essentiel pour comprendre cette problématique-là. La deuxième question que pose la mort de Robin, c'est la question de la détention provisoire, qui n'a jamais été aussi mal nommé, puisque pour Robin, ce n'est pas une détention provisoire, mais malheureusement une détention définitive. Mais je rappelle à toute fin utile que la détention provisoire, qui concerne quand même, il faut se le dire, près de 20 000 personnes sur les 86 000 prisonniers actuellement en prison, donc c'est quasiment un détenu sur 4, normalement ne s'appelle pas détention provisoire, elle s'appelle détention préventive. Elle a 2 buts. Le premier, c'est dans l'attente du procès, de mettre à l'abri la société de quelqu'un qui serait potentiellement dangereux. J'aimerais qu'on m'explique en quoi Robin était potentiellement dangereux pour la société. La deuxième chose, c'est qu'elle est là pour prévenir l'éventuelle fuite d'un accusé qui pourrait fuir avant son procès. J'aimerais qu'on m'explique comment Robin aurait pu fuir son procès. Donc on est bien là dans le détournement de quelque chose, et un détournement absolument insupportable, et qui a mené à quelque chose d'absolument insupportable également, la mort d'un jeune de 22 ans. La troisième question que cela pose, après la question du traitement des drogues et la question de la préventive, c'est quand même, malgré tout, la question de la surpopulation carcérale. Mais pas du point de vue Robin est mort parce qu'il y a surpopulation carcérale, mais simplement du point de vue de pourquoi envoie-t-on autant de gens en prison? Pourquoi n'est-on pas capable de traiter les questions sociétales, les questions des délits mineurs et autres, autrement qu'en envoyant des gens en prison? La quatrième question que cela pose, même si ce n'est pas forcément le cas spécifiquement en l'espèce, encore que, on peut se poser la question, c'est la question de la psychiatrie et de l'état de la psychiatrie dans notre pays. Combien de personnes en prison devraient plutôt être en hôpital parce que ce sont des gens qui ont besoin de soins et non pas de punitions? Et quelle souffrance cela crée pour eux, mais également pour leur entourage? Alors, c'est, si j'ai bien compris, pas forcément le cas spécifique du co-détenu de Robin, mais à la Talaudière, par exemple, à Saint-Étienne, c'est quelqu'un qui aurait dû être hospitalisé, qui était en prison et qui a tué son co-détenu. Ça pose aussi plus largement la question de ce que fait l'État français pour ses services publics, quels qu'ils soient. Et je rappelle que la détention, la pénitentiaire, est un service public aussi horrible que cela puisse paraître, c'est un service public. Et il se trouve que tous les services publics de ce pays, que ce soit l'école où je travaille, que ce soit l'hôpital, que ce soit la pénitentiaire, sont maltraités, et maltraités d'un point de vue budgétaire. par un gouvernement qui préfère servir les plus riches que mettre les moyens pour que tout se passe bien, ou le mieux possible en tout cas. Un dernier point sur lequel je veux venir avant de conclure, c'est la question certains messages que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux quand j'ai posté ma participation à cette marche blanche, des messages racistes, des messages qui accusent le codétenu de Robin parce que, n'est-ce pas, il n'aurait pas la bonne couleur de peau ou la bonne origine. Le problème n'est pas qui est l'assassin de Robin, le problème c'est qui a tué Robin. Et qui a tué Robin, c'est l'État français, c'est notre politique pénale, c'est notre politique carcérale, c'est notre politique de traitement des drogues, et c'est cette politique qu'il faut changer. On sait que les solutions existent, on sait qu'il y a des propositions de loi qui ont été faites pour dépénaliser la consommation de drogue, pour réduire la population carcérale, pour développer des alternatives à la prison, pour tout simplement faire autrement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Robin, et moi je voudrais saluer vraiment l'immense courage à la fois des parents de Robin, mais de toutes celles et ceux qui se sont réunis dans cette association et de Carole Chaptal-Hernandez ici, qui a décidé non pas de traiter la mort de Robin comme un fait divers, mais d'en faire un fait politique, parce que c'est la politique qui peut trouver des solutions à cette situation. Je vous remercie.
Ensuite, donc, nous nous sommes déplacés silencieusement, donc nous avons marché jusqu'au cimetière dans le silence et la dignité, le recueillement dans un fond de musique de Chopin. C'était très 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 émouvant et arrivé au cimetière, donc là c'était les parties vraiment consacrées à la mémoire de Robin, la marche et ensuite au cimetière, bon, une diffusion de du conte Robin Soleil, une prise de parole du papa très très douloureuse, en pleurs, et où il a pu dire seulement quelques mots. Il était vraiment très très déstabilisé, et ça se comprend. C'est un monsieur qui a toujours été en pleine forme avant le décès de son fils, et puis ça fait un an qu'il a fait crise cardiaque sur crise cardiaque. On lui a placé un pacemaker, c'est vraiment, voilà, l'exemple même du chagrin qui brise le cœur. Moi, un moment qui m'a particulièrement touchée, ça a été à la fin de ces moments au cimetière où nous avons tous levé la main au ciel ou levé un petit drapeau blanc vers le ciel. Pour la minute de silence, j'ai vraiment, pour ma part, ressenti une espèce de connexion avec Robin à ce moment-là. Pour moi, une journée douloureuse, mais positive dans le sens du parcours de deuil, mais aussi de la dénonciation des manquements institutionnels des centres pénitentiaires et de l'État en général. Voilà, donc nous avons pu dénoncer cela devant des journalistes. Il y a eu pas mal d'articles par la suite. Alors voilà, pour les retombées, hein, pas mal d'articles, pas mal de visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur ma page perso qui est directement reliée à la page Justice pour Robin Cotta sur Facebook. Donc ma page perso Carole Hernandez Chaptal, où j'ai eu un nombre d'abonnés assez énorme. J'ai du mal à m'occuper de tout ça et à faire face, mais voilà, ça nous permet d'avoir une grosse visibilité sur le meurtre de Robin, puisque nous voulons aller loin, mais vraiment très loin, qu'il serve d'icône. C'est une... un travail que personnellement, je suis dans l'obligation, ça ne m'amuse pas de faire, mais sinon, j'en meurs, quoi. Quand on se laisse écraser, et on se laisse, écraser par l'injustice de la mort de Robin, par exemple.
Alors, je vais te faire rigoler, Carole, je vais te donner notre bilan à nous. Nous, c'est les quelques personnes que tu avais mobilisées pour faire ce que tu as appelé l'équipe de sécurité. Alors, d'habitude, nous, quand on va en manif, les manifs sont organisés par d'autres, il y a un service d'ordre, mais c'est un service d'ordre des syndicats, et on s'engueule souvent avec eux parce que on les déborde et on veut porter un discours plus radical que ce qu'ils rapportent eux. Et donc, on essaye de dévier la manif, on désorganise le plan d'organisation en se mettant devant avant la banderole, des choses comme ça. Là, au contraire, tu nous as demandé d'être nous les garants que ça se passe bien. Je vais le dire parce que c'est rigolo. Tu te souviens qu'au début, tu voulais qu'on ait des brassards sécurité. Bon, en fait, on n'a pas fait ça. On avait quand même des gilets jaunes, mais avec écrit dessus « Marche pour Robin ». Et on a fait beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler du « médistrique ». C'est-à-dire prendre soin des gens, amener un parapluie pour être à l'ombre, amener des bouteilles d'eau, veiller à ce que la voiture balai récupère les gens qui avaient du mal à monter dans la montée du cimetière à pied, des choses comme ça. Et ça s'est très bien passé. En tous les cas, ce que je voulais te dire, c'est que on te remercie de nous avoir changé de paradigme. Et voilà, comme je te disais, d'habitude, dans les manifs qu'on n'organise pas, nous, on met le bordel, et dans les manifs qu'on organise nous, c'est facile à organiser parce qu'on a l'habitude. On a travaillé avec toi qui était en train de découvrir ça, qui avait déclaré la manif, alors que d'habitude nous on les déclare pas quand on les fait nous. Avec tout ce que ça voulait dire au niveau des relations avec les autorités. Et voilà, et tu nous as mis dans une situation où on était obligé d'écouter un député, ce qu'on fait d'habitude pas. Et ma foi, comme il a pas dit de bêtises, eh ben oui, on l'a pas hué à la fin. Et même, je sais pas s'il y en a pas d'entre nous qui ont applaudi. Je te remercie de nous avoir ouvert l'esprit. Ça n'empêche pas que je continue à penser que cette association, donc Vérité, Justice et Réforme, elle devrait plutôt s'appeler Vérité et Changement, Justice et Changement, parce que il faut pas réformer la prison, il faut changer tout le système pénal et donc abolir la prison.